Ce podcast est le second d'une série de trois que je vais dédier aux sciences de la complexité, c'est-à-dire à l'ensemble des outils conceptuels et des modèles et des méthodes pour essayer de rendre compte et de décrire et prédire le comportement de l'univers dans son ensemble et à toutes ses échelles. C'est vraiment l'enjeu de la science physique et de la science en général moderne qui inclut la physique, la chimie, la biologie, etc. Dans le podcast précédent, nous avons vu qu'à partir du XVIIe siècle, la démarche scientifique s'est développée sur la base de l'instrumentation, l'expérimentation et l'abstraction mathématique. Il s'en est suivi une démarche qui a été extrêmement riche et productive, qu'on appelle la démarche réductionniste, c'est-à-dire de tenter de trouver quels sont les éléments de base, les lois de base, les symétries de base qui sont à l'origine du comportement de tous les objets de l'univers. Donc, il s'agit maintenant de remonter la pente, on est au fond de la piscine, et d'essayer de voir comment, à partir de ces éléments de base, on va pouvoir essayer de reconstituer le comportement, de comprendre les systèmes, de prédire le comportement des systèmes plus ou moins complexes qui composent cet univers. Donc, le mot « système » est lâché. C'est un mot qui, finalement, est assez récent, puisqu'il date du XVIIIe siècle, il y a eu un traité des systèmes, et il a pris une ampleur tout à fait extraordinaire au milieu du XXe siècle, comme on le verra, et envahit tous les champs de la connaissance. Donc qu'est-ce que c'est qu'un système ? Un système, c'est d'abord une construction intellectuelle qui permet de définir dans l'univers un ensemble parfaitement défini par une frontière. Donc un système, c'est une frontière qui délimite une partie interne avec ses composants et d'une partie externe qu'on appelle l'environnement. Et ce système-là, il a des fonctions bien définies et il interagit avec son environnement. On prend un exemple, un virus, bien, c'est un ensemble organisé de molécules qui a une structure bien définie dans l'espace et qui a un comportement collectif et qui interagit avec son environnement. On pourrait trouver de même un atome ou une galaxie. Une galaxie, c'est un ensemble d'étoiles de forme assez bien définie et qui a un comportement collectif. Donc, la science a pour objectif l'étude des nombreux systèmes qui composent l'univers, à toutes les échelles, du noyau atomique, aux molécules biologiques, aux matériaux, aux planètes et aux galaxies. Donc, l'objectif, c'est d'expliquer le comportement collectif du système, de prédire son évolution future, et peut-être de le comprendre, à partir des propriétés de ses composants. Puisqu'on a une démarche opposée au réductionnisme, on part des composants, et on essaie de savoir si on peut reconstituer le comportement global du système. Quelque part, on a en vue le fameux problème de Laplace qui avait dit que s'il connaissait à un instant donné la position de tous les éléments de l'univers et les lois qui les gouvernent, il serait capable de prédire à la fois le futur et le présent et le passé. Donc, pour résoudre ces problèmes-là, les scientifiques vont développer différentes stratégies parce que, comme on va le voir, le processus est loin d'être simple et on verra, on discutera pour savoir si ce sont des problèmes, des difficultés de mise en œuvre ou des difficultés beaucoup plus fondamentales. Donc, ce podcast va présenter les grandes lignes de cette problématique. Donc, la première stratégie qui va être utilisée pour étudier les différents systèmes, ça va être ce qu'on appelle la système hiérarchique. C'est-à-dire que dans un certain nombre de cas, eh bien sûr, on pourrait partir des composants des quarks et des gluons du début de l'univers, mais quand on va étudier par exemple un virus, eh bien, on ne va pas redescendre jusqu'à ce niveau des composants fondamentaux. On va définir ce qu'on appelle des systèmes hiérarchiques, c'est-à-dire qu'on va englober les propriétés des composants de manière simple, de manière simplifiée, de manière suffisante pour pouvoir prédire le comportement du système. Par exemple, si je veux prédire le comportement d'une galaxie, je n'ai pas besoin de savoir le comportement individuel de chacune des étoiles, j'ai simplement besoin de définir les propriétés moyennes d'énergie, de masse et de distribution. Donc, c'est ainsi qu'on va pouvoir un petit peu peut-être décomposer une partie de l'univers, du moins, en espèces de poupées russes, les unes emboîtées les unes dans les autres, sachant que l'étude de la poupée la plus en surface, la plus grande, eh bien, va pouvoir faire l'impasse sur la structure détaillée des poupées qu'elle contient. Et pour ça, on va être aidé par les propriétés des interactions fondamentales qu'on a vues au premier podcast, et puis des lois de symétrie, qui va faire notamment que dans l'infiniment petit, cette hiérarchisation est assez efficace. Je pars du principe d'abord que les particules, dont on suppose qu'elles sont les constituants élémentaires, les quarks, les gluons, et puis les interactions qui les relient, forment le plancher. Et ça, c'est le domaine de la physique des particules. Si on monte à l'étage au-dessus, si on construit la poupée au-dessus de la poupée physique des particules, on a la poupée physique nucléaire, c'est-à-dire le noyau atomique, qui est un système très localisé dans l'espace, composé de protons et neutrons, et on sait que ces protons et neutrons sont eux-mêmes composés de quarks et de gluons. Bien, en première approximation, on peut étudier le noyau atomique en encapsulant les propriétés internes des nucléons, en ne gardant que leurs propriétés collectives. Donc on aura une première poupée. La physique nucléaire peut être étudiée en première approximation en faisant l'impasse sur la structure des nucléons qui le composent. Et puis si on monte d'un cran, on a la physique atomique. On sait que l'atome, c'est un nuage d'électrons assez étendu dans l'espace, autour d'un noyau infiniment petit. Eh bien, on peut très bien étudier l'atome en faisant l'impasse sur la physique nucléaire et en ramenant le noyau atomique à quelques propriétés de base, sa masse, son nombre de sa charge atomique, etc. Donc, voilà un système assez emboîté, assez hiérarchique, qui permet de faire de l'économie, quand on étudie un système, faire l'économie de l'étude de l'ensemble détaillé des composants qu'il contient. Alors ça peut être aussi vrai, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour une galaxie qui est constituée de milliards d'étoiles, on peut oublier la caractéristique individuelle de chacune de ces étoiles pour garder que quelques propriétés collectives. Est-ce que c'est une démarche universelle ? Mais malheureusement, ça ne marche pas tout le temps, parce qu'il y a plein de systèmes que l'on ne peut pas décomposer en niveau hiérarchique. Par exemple, déjà au niveau de la physique moléculaire, les atomes sont déjà suffisamment, une molécule qui est un ensemble d'atomes, les atomes sont suffisamment enchevêtrés et proches les uns des autres pour que lorsqu'on crée une molécule, on ne puisse pas faire l'impasse exactement de la structure des atomes qu'ils composent. Et on pourrait multiplier les systèmes. Quand on veut étudier, par exemple, le comportement de l'air autour d'un avion, d'une aile d'avion, eh bien là aussi, on a beaucoup de problèmes pour définir des niveaux hiérarchiques et on passe directement, on est obligé de passer directement du niveau le plus élémentaire jusqu'au niveau le plus macroscopique. Donc la démarche de hiérarchisation et d'encapsulation est une démarche très efficace, qui a été très utilisée, qui est très utilisée encore, mais qui souvent se heurte à des limites. Alors, au XIXe siècle, on s'est posé cette question et on a déjà trouvé une piste de solution pour un système qui n'est pas hiérarchisé. L'avènement de la machine à vapeur et de la société industrielle qui s'est construite de la fin du XVIIIe au début du XIXe a attiré beaucoup d'attention à ce qu'on appelle la physique des gaz. La vapeur avait été caractérisée par des pressions, de la vitesse, un volume, une température, etc. Et on a eu beaucoup d'études qui ont été faites pour relier la pression, puis ensuite les rendements des machines thermiques. Et alors, tout de suite, pour les physiciens fondamentaux, se pose la question, mais comment expliquer ces propriétés globales de la vapeur d'eau, sa pression, sa température, etc., à partir des composants qu'on supposait déjà à l'époque comme étant des atomes, c'est-à-dire des petits éléments insécables. C'était l'objet de la physique statistique, et il y a une grande avancée qui a été faite par deux physiciens extrêmement célèbres depuis, Maxwell, qui avait déjà attaché son nom à l'électromagnétisme, et puis Boltzmann, qui ont fait une étude et qui ont montré simplement qu'à partir d'une analyse statistique des comportements des molécules dans les gaz, eh bien on pouvait retrouver ces grandes grandeurs collectives, c'est-à-dire qu'on était capable de trouver que la température, c'est jamais que liée à l'énergie cinétique moyenne des molécules, que la pression, c'est lié au choc de ces particules sur les parois, etc. Et donc, d'une loi statistique dans l'infiniment petit, ils ont été capables de déduire de manière précise les grandes variables macroscopiques qui étaient utilisées dans les études des machines à vapeur. Alors, derrière cette étape-là, qui est une démarche extrêmement riche et extrêmement puissante, a permis d'élaborer ce qu'on peut appeler la notion d'émergence. Et on verra que cette notion d'émergence prendra un relief très important au milieu du XXe siècle. Qu'est-ce que c'est que la propriété émergente? Eh bien, c'est une propriété collective d'un système qui ne découle pas immédiatement des propriétés individuelles. Ben, par exemple, le comportement d'un essaim d'abeilles, eh bien, c'est une propriété émergente qui n'est pas immédiatement réductible aux propriétés de chacune des abeilles qu'il compose. Donc l'émergence permet de passer du système dans un système de ses composants vers le comportement collectif, sachant qu'on va pouvoir définir ce qu'on appelle l'émergence faible. L'émergence faible, c'est simplement ce qu'ont fait Maxwell et Boltzmann, c'est-à-dire que même si on passe pas simplement, mais la température et le volume et la pression du gaz se déduisent de manière mathématique, mais relativement simplement, des propriétés des molécules qu'il compose. Donc, émergence faible, c'est lorsque le passage du microscopique au macroscopique se fait sans véritable rupture. Par contre, et Dieu sait si dans la physique des gaz et la physique des liquides, on a trouvé des émergences plus fortes. Par exemple, le changement de phase liquide-vapeur est une émergence forte. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait la statistique des gaz et des liquides, eh bien, le changement de phase liquide-vapeur se traduit par un comportement extrêmement continu à l'échelle de chaque atome. En gros, chaque molécule d'eau dans la vapeur d'eau ne sait pas si elle est dans un liquide ou dans une vapeur. C'est des petits changements dans son énergie cinétique, dans son parcours moyen. Donc, il y a une véritable émergence dans ce qu'on appelle la changement de phase. C'est lorsque une petite variation des propriétés microscopiques à l'échelle de l'infiniment petit se traduit par des grandes variations à l'échelle collective. Alors, les changements de phase vont être l'objet de toute une étude de systématique dans beaucoup de domaines, et c'est encore toujours très utilisé parce que c'est une propriété émergence forte de certains systèmes. Et puis, surtout, Boltzmann va découvrir un problème d'une émergence forte extraordinaire qui l'a conduit quelque part à la folie et peut-être à son suicide, parce que très vite, on lui a fait remarquer que sa grande théorie statistique des gaz était basée sur le fait que les propriétés des gaz étaient liées à leur petit choc, au choc aléatoire des molécules qui le composent. Or, ces propriétés des chocs ont une propriété physique évidente, ce sont des chocs élastiques, et un choc élastique est réversible, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de flèche du temps. Dans un gaz, les molécules s'entrechoquent, et si on était capable de faire un film avec un fort grossissement, on verrait donc des molécules qui s'entrechoquent, et que l'on passe le film à l'endroit ou à l'envers, on serait incapable de définir lequel est le vrai. C'est-à-dire que les systèmes microscopiques sont invariants par rapport à la flèche du temps. Mais comment se fait-il que quand on passe à l'échelle de notre système macroscopique, eh bien, si on prend par exemple un verre d'eau froide, c'est-à-dire composé de molécules pas très agitées, et un verre d'eau chaude avec des molécules beaucoup plus agitées, si on les mélange, on obtient un verre d'eau tiède. Eh bien, il est évident que ce processus-là est un processus qui a une flèche du temps, puisqu'on est capable de passer de l'eau froide et plus l'eau chaude au tiède. Par contre, jamais le verre d'eau tiède va se séparer en eau froide et en eau chaude. Donc, la flèche du temps macroscopique est un problème faramineux qui soulève encore beaucoup de problèmes théoriques, ne serait-ce qu'à l'échelle de l'univers et dans tous les domaines de la physique. Comment peut-on expliquer que des processus qui ne sont pas sensibles à la flèche du temps peuvent donner de manière collective lieu à l'émergence de flèches? Et on peut toujours se poser cette question dans d'autres niveaux. Par exemple, est-ce que la vie, qui résulte de mécanismes biochimiques de tas de molécules, est-ce que c'est un phénomène émergent qui découle à partir d'une certaine complexité, ou bien, comme dans d'autres domaines encore, est-ce que la conscience est un phénomène émergent qui résulte des propriétés des neurones qui composent le cerveau des humains? Donc voilà, la physique statistique a été extrêmement puissante et a permis surtout de faire un premier pont entre l'infiniment, les composants d'un système et leur comportement collectif. sachant que là aussi, on va vite découvrir que ce système-là n'est pas toujours possible, cette démarche-là n'est pas toujours possible. Et puis, aux alentours du tournant du XXe siècle, vers 1900, il y a un autre problème qui est apparu dans toute sa grandeur, qui rend compte de cette difficulté qu'il y a passé des composants au système. Très vite, les lois de Newton et puis toutes les outils mathématiques qui ont été développés ont fait qu'on a étudié les systèmes planétaires, la Terre autour du Soleil, la Lune autour de la Terre, et même le calcul de la trajectoire des trois corps qui constituaient la Lune, la Terre et le Soleil, puisqu'ils interagissent tous les trois. Mais très vite, on s'est rendu compte que si on étudiait ce fameux problème à trois corps et qu'on l'étendait à des cas beaucoup plus homogène, c'est-à-dire par exemple trois étoiles de même, en gros de même masse, on s'apercevait que quand on résolvait les équations, quand on tentait de les résoudre, on trouvait que par moment, il y avait des régimes extrêmement stables, c'est-à-dire que les trois étoiles s'organisaient dans des orbites périodiques. Puis de temps en temps, il y avait des régimes extraordinairement compliqués. Et pour passer de l'un à l'autre, il suffisait d'une toute petite variation des conditions initiales. De nombreuses études ont été faites et on n'avait pas les moyens d'avoir analytique, de calculer les solutions de ces équations. Il fallait passer par le calcul numérique, ce dont on n'était pas capable à l'époque, au début du 19e, faute d'ordinateur. Alors Poincaré a une approche extrêmement riche et puissante, qui est des approches topologiques, en disant je renonce à calculer chacune des solutions individuelles à ce problème-là. Il a fait une approche par famille, en disant quelles sont les propriétés des solutions du problème à trois corps dans un espace abstrait qu'on appelle l'espace des phases. Et il a démontré que cet espace des phases, pour le problème à trois corps, était un espace très tourmenté. Si par endroit il y avait des vallonnements, des vallées extrêmement régulières qui organisaient le mouvement de manière périodique, eh bien il y a des zones de cet espace de phase où le comportement était beaucoup plus tourmenté. On verrait que c'est un paysage fractal, dira-t-on dans un siècle plus tard, et donc pour lesquels il était très difficile de prédire une solution tant elle était sensible aux conditions initiales. Donc, Poincaré a mis le doigt sur un phénomène qui bientôt allait prendre le nom de chaos déterministe et qui montrait que là aussi, on aboutissait à un problème de fond lorsqu'on voulait étendre l'étude des systèmes en passant de composants à la démarche collective. Alors, on était dans cette situation, et il s'est passé quelque chose au milieu du XXe siècle, vers les années 1950. Il y a eu une confluence de faits, de besoins, d'idées et d'outils nouveaux qui vont permettre ce qu'on appelle l'émergence de la physique de la complexité. Alors, bien sûr, l'effet, c'est d'abord que, comme on savait déjà depuis Poincaré, que il y avait des domaines, des équations mathématiques pour la physique qui étaient extraordinairement instables. Et puis, on avait quand même une bonne idée en disant, mais progressivement, les premiers ordinateurs qui commençaient à se faire jour suite aux nécessités de la Seconde Guerre mondiale donnaient un espoir qu'on pouvait peut-être résoudre numériquement et analyser ces solutions un peu paradoxales de manière plus précise. Et puis, ensuite, la physique a beaucoup changé parce que on sortait de la guerre et le grand projet, hélas peut-être, de physique était le projet Manhattan de construction du bombe atomique, qui avait montré à la fois qu'on pouvait s'attaquer à des problèmes d'une grande complexité et mettant en jeu des disciplines diverses, aussi bien les matériaux, la physique nucléaire, les mathématiques, etc. Donc voilà un contexte où les scientifiques ont montré qu'en travaillant de manière collective sur des grands projets, ils étaient capables d'aboutir à des résultats assez inimaginables. Mais surtout, eh bien, il y avait le fait que les sciences dites de la nature, comme les sciences naturelles ou la biologie, quittaient le domaine plutôt de l'observationnel pour aller vers une démarche beaucoup plus quantitative et beaucoup plus analytique, qui elle-même nécessitait des équations dont on avait un peu de peine à maîtriser les solutions. Alors, à l'issue de ce contexte-là, donc à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement américain a pressenti que, d'une part, tous ces scientifiques qui avait collaboré au projet Manhattan, allait bientôt quitter ce projet pour aller vers d'autres horizons. Et il a demandé un document prospectif à un fameux physicien, Weaver, William Weaver, de bâtir un rapport pour essayer de prédire quel serait le comportement de la science à l'issue de cette Seconde Guerre mondiale, tenant compte des faits que je viens d'exposer. Et il a établi un rapport qui s'appelle Science and Complexity, qui était certainement un article, de manière, un rapport finalement assez simple à lire, mais qui était très prémonitoire. Et en gros, il prévoyait que peut-être que la physique jusqu'alors s'était contentée de problèmes assez simples, hein, les planètes, les atomes, etc. Et que désormais, la science allait devoir s'attaquer à des problèmes nouveaux, que ce soit dans les sciences de la vie ou dans les sciences humaines, ou d'autres domaines des sciences physiques tels que le projet Manhattan, qui nécessitent d'autres outils que ceux qui étaient déjà développés. Donc c'est des sciences de la complexité. Alors la complexité, Weaver la distingue en trois grandes parties. Il dit pourquoi, qu'est-ce que c'est qu'un système complexe? J'y reviendrai tout à l'heure. Bah, il y a d'abord des systèmes compliqués. Alors qu'est-ce que c'est qu'un système compliqué? C'est un système hétérogène, qui a beaucoup de composants très divers et qui n'ont pas de propriétés communes. Donc ils ne font pas système au sens que les composants ont chacun leur comportement individuel. Quand vous démontez un smartphone, vous avez une infinité de composants et qui sont de tailles différentes et pour lesquels il est difficile de définir un comportement. Certes, il y a un comportement collectif, mais il n'y a pas d'éléments qui ont des propriétés semblables. Par contre, d'autres systèmes ont des propriétés telles que les composants sont résumés, on résume leurs propriétés à quelques propriétés essentielles qui ensuite donnent lieu à un comportement collectif. Alors, Weaver distingue les systèmes à composants multiples, mais simples. Composants multiples, ce qui fait la complexité, c'est le nombre des composants. Donc, on l'a vu tout à l'heure, l'exemple typique de cette complexité, c'est la physique statistique des gaz, où il y a des milliards et des milliards de molécules, mais dont on peut ramener le comportement individuel à quelques propriétés simples. Et puis, il a anticipé ce qui allait devenir une étape importante de la complexité, qu'il y avait des systèmes, d'autres systèmes, tels que même s'ils n'ont pas forcément beaucoup de composants, les interactions entre ces composants sont suffisamment complexes et non linéaires, on verra le complexe de non-linéarité tout à l'heure, tels qu'ils rendent de manière leur comportement très difficilement prédictible. Donc voilà les trois axes, et on va voir que la science de la complexité va s'intéresser surtout aux deux derniers. Avec la complexité désorganisée dont je parlais avec la physique statistique, mais surtout avec la complexité organisée, c'est-à-dire le comportement de systèmes qui ont peut-être pas forcément beaucoup de composants, on le verra, mais qui obéissent à des règles, à des lois d'interaction suffisamment non linéaires pour rendre le comportement collectif du système difficilement prédictible. On donnera des exemples dans les éléments qui suivent. Alors, parmi les systèmes complexes, il y a complexes organisés. En fait, il y a deux grandes catégories, à nouveau. Il y a ceux qui sont complexes parce que je parlerai de complexité spatiale et de complexité dynamique. C'est-à-dire qu'il y a des systèmes qui sont statiques, mais qui ont une complexité spatiale, c'est-à-dire qu'il est très difficile de les décrire, de les caractériser ou de les explorer. Je prends un exemple, si vous prenez le réseau Internet d'un pays ou même au niveau mondial, c'est un système extraordinairement complexe avec énormément d'interactions. Donc si on souhaite décrire quelque part de manière fine le réseau des câblages Internet, ça devient une tâche extraordinairement difficile. Mais de manière plus prosaïque et dans un domaine comme la biologie ou la biochimie ou la génétique, prenons le cas des protéines, qui sont des chaînes très longues de molécules, mais dont les propriétés collectives résultent d'une forme de leur repliement particulier dans une géométrie particulière. Eh bien, le nombre de géométries particulières de cette chaîne est tel que, il est très difficile à la fois de pouvoir prédire laquelle forme elles devront prendre, et elles sont difficiles à caractériser et à décrire. Donc ça, c'est le spatial. On a des objets. Et on verra par exemple, si le mot vous est familier, on verra que les objets fractales sont des objets qui ont cette caractéristique, c'est-à-dire qu'ils sont difficiles à caractériser, à explorer et à décrire. De l'autre côté, vous avez d'autres systèmes qui, eux, dont on s'intéresse au comportement dans le temps, donc on dira des systèmes dynamiques. Et à ce moment-là, c'est leur comportement qui est difficilement prédictible, soit parce qu'il n'est pas linéaire, on verra aussi parce qu'il s'auto-organise. Un bel exemple, qui a d'ailleurs été illustré par un prix Nobel récent de Parisi, ben c'est par exemple les vols d'oiseaux ou les bancs de poissons. Tout le monde a vu ces images extraordinairement suggestives de bancs de poissons qui évoluent, qui s'organisent de manière extrêmement difficile à prédire, parce qu'ils résultent de comportements pourtant individuels de petits poissons qui ont chacun des degrés limités de mouvement. Quelque part aussi, hein, le trafic routier dans les grands ensembles sera sujet aussi à ce type de comportement. Et puis surtout, on verra par exemple que des systèmes dynamiques comme la météo, la météorologie, eh bien, les équations qui gouvernent la météorologie ont ce type de comportement imprédictible, non linéaire, qui rend la prédiction du temps difficile à long terme. Donc, lorsque le projet Weaver a été publié, et c'est vrai que ça correspondait aussi à pas une inquiétude, mais à un problème qui se posait au gouvernement des États-Unis, qui avait mobilisé de manière extrêmement intense pour le projet Manhattan des centaines, des milliers de scientifiques, eh bien, une partie de ces scientifiques, notamment du projet Manhattan, comme Von Neumann, comme Ulam ou d'autres, eh bien, vont s'intéresser à la complexité, et ce sont des physiciens du projet Manhattan qui, pas très loin de Los Alamos, vont créer à Santa Fe le premier institut des sciences complexes. Donc, l'idée de Weaver a commencé à essaimer, et Dieu sait si depuis elle a essaimé, puisque le mot complexité apparaît partout, dans tous les domaines scientifiques et aussi parascientifiques ou de sciences humaines. Notamment, chacun est familier avec Edgar Morin, qui a publié trois tomes sur la nature des systèmes, les systèmes de la nature, justement, et qui a popularisé dans d'autres domaines que scientifiques la notion de complexité. Alors, les sciences de la complexité, puisque désormais on va parler de sciences de la complexité, est-ce que c'est une science? Alors, ce n'est pas véritablement une science, comme par exemple la physique nucléaire ou la cosmologie, qui est une entreprise systématique, hein, qui organise des connaissances sous la forme d'explications et de prédictions, avec un caractère de généralité affirmée. En fait, on verra que les sciences de la complexité sont surtout un ensemble d'approches qui dépendront du contexte. Il n'y a pas d'approche unifiée. La théorie des systèmes qui a essayé d'être formalisée n'a jamais abouti à des résultats probants. Donc c'est un ensemble d'approches, et quelles sont les propriétés communes? Eh bien, elles ont deux propriétés communes, c'est qu'elles se démarquent des principes réductionnistes, c'est-à-dire qu'elles ne cherchent pas à réduire le comportement collectif, elles ont une approche plutôt holistique, dira-t-on, qu'une approche réductionniste, et d'autre part, qu'elles s'appuient fortement sur les moyens de calcul, notamment sur ordinateur. On verra que ceci est lié à la problématique que je verrai dans le podcast 3 sur l'avènement des automates. Alors, même si ce n'est pas une science, on doit quand même pouvoir faire des choses et définir de manière assez précise ce que c'est la complexité, quelque part aussi peut-être la mesurer. Comment peut-on caractériser un système moins complexe qu'un autre? Alors, je passe tout de suite sur la notion de compliqué que j'ai déjà abordée. Donc un système compliqué, c'est un système qui a des composants très hétérogènes, donc il est très difficile de les manipuler sans tenir compte de leur individualité propre. Par contre, les systèmes complexes sont des systèmes qui ont des caractéristiques communes, dont les composants ont des caractéristiques communes. Alors comment va-t-on mesurer la complexité d'un système composé de composants qui n'ont des caractéristiques communes? Il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits par les informaticiens, par les mathématiciens qui sont attachés à cette propriété. Et on est sûr maintenant qu'il n'y a pas de mesure absolue. On peut pas comparer complètement la complexité d'une protéine repliée avec la complexité d'une galaxie. En revanche, on a des outils, notamment pour comparer la complexité dans des domaines qui sont proches. Eh bien, la définition la plus simple et peut-être la plus efficace, c'est de dire que la complexité d'un système est liée à la quantité de ressources nécessaires, soit pour la décrire, ou soit pour caractériser son comportement. Si vous prenez une suite infinie de lettres A, B, A, B, A, B, qui se répètent tout le temps, c'est une suite de longueur infinie, mais elle n'est pas complexe, puisque pour la décrire, il suffit de dire c'est une suite infinie de couples AB. Et c'est terminé. Par contre, si maintenant vous avez une suite infinie de caractères alphabétiques qui sont tirés au hasard, eh bien, c'est une complexité infinie parce que vous n'avez aucun moyen de réduire la description. Vous êtes obligé de la décrire en énumérant les lettres qui la composent. Par exemple, un tableau, bien sûr, entre un tableau monochrome d'un blanc parfait, comme c'est dans certains tableaux modernes, eh bien, à côté, vous mettez un tableau de Jérôme Bosch qui décrit de manière extraordinairement fine et détaillée toutes les activités d'un village hollandais. Il est évident que si vous voulez décrire à quelqu'un qui est aveugle le tableau monochrome ou le tableau de Bosch, la quantité de texte ou de paroles que vous devez utiliser déterminera l'échelle de complexité, etc. Donc, il y a tout un ensemble d'outils qui sont, alors en informatique, c'est assez évident, eh bien, on va comparer des outils informatiques au nombre de lignes qu'il a été nécessaire pour écrire le programme, soit au temps de calcul qui est nécessaire. Et on verra qu'on parlera de programmes de calcul complexes, polynomiaux ou non polynomiaux, c'est-à-dire un programme simple, pas très compliqué, on dira de type polynomial, est un programme dont le temps de calcul varie de manière simple avec le nombre d'éléments, alors qu'un système non polynomial nécessitera un temps de calcul qui croît exponentiellement avec le nombre de composants. Alors, de ceci, on a une petite idée qu'on utilisera peut-être quelquefois sur la notion de complexité telle qu'on peut la caractériser quantitativement. Mais tout de suite, il faut se rendre compte d'une chose, c'est qu'il faut se départir de l'idée que le complexe est l'opposé du simple. Eh bien non. Puisqu'on verra souvent que le complexe naît du simple. Par exemple, Poincaré a démontré que la Terre autour du Soleil est un système complexe, mais dès qu'on rajoute trois étoiles à l'interaction, ça devient un système complexe. Donc, trois objets déjà deviennent un système compliqué. Donc, la complexité n'est pas l'opposé du simple, mais on verra que quelquefois le complexe naît du simple. Enfin, pour terminer ce podcast, avant d'entamer le podcast numéro 3, qui va vraiment s'attaquer au cœur du problème des sciences de la complexité, il faut faire un petit regard épistémologique sur ce qui se passe jusqu'aux années 50 et jusqu'à nos jours. Ben, jusqu'avant 1700, j'allais dire, pour faire court, eh bien, tout n'était que nombre, hein. Ptolémée, Kepler et peut-être aussi Copernic et tous les autres, eh bien, quand ils ont étudié les lois pour les mouvements des planètes autour du Soleil, eh bien, ils avaient affaire à des tables de nombres, des nombres, avec beaucoup de nombres. Et puis, l'arrivée en 1700 des modélisations mathématiques algébriques a fait qu'à partir d'un certain temps, eh bien, on a manipulé non plus les nombres, mais des fonctions, des outils, des équations, qui ont un très grand pouvoir de synthèse. Donc, le calcul algébrique est devenu la norme jusqu'à Poincaré, j'allais dire, et de manière extrêmement efficace, extrêmement développée, sachant qu'à partir de Poincaré, on a vu qu'on avait des limites dans le calcul algébrique. Donc, à partir des années 50, avec les systèmes complexes, eh bien, on va revenir au discret, on va revenir au nombre, ou plus exactement, on va revenir aux algorithmes sur ordinateur, que je vais caractériser dans la suite du troisième podcast comme étant le règne des automates. C'est-à-dire qu'on va substituer aux tables de nombres, on va substituer aux calculs algébriques et aux fonctions et aux équations différentielles des automates de calcul qui vont permettre de générer des solutions, y compris dans les domaines pour lesquels on n'a pas de solution analytique. Eh bien, cette idée d'automate qu'on précisera tout à l'heure, elle était déjà dans l'air dans les années 50, parce que les mathématiciens, rappelez-vous, dans le premier podcast, je parlais des efforts des mathématiciens pour trouver les bases des mathématiques et du théorème de Gödel qui démontre l'inanité de cet effort-là, enfin du moins pas l'inanité, mais les difficultés. Eh bien, les mathématiciens comme Gödel, puis von Neumann et puis Turing, eh bien, ont utilisé pour ça des automates conceptuels, des automates virtuels qui leur permettaient d'automatiser un petit peu la démonstration des théorèmes qu'ils voulaient démontrer. Et derrière ça, tout de suite, von Neumann, dans les années 36, a conceptualisé ce qui devait être plus tard l'ordinateur en disant voilà un ordinateur tel qu'il devrait être conçu et tel qu'il devrait être architecturé. Donc, à partir de maintenant et dans la suite des opérations, je vais étudier la complexité surtout à partir de ce qu'on appelle des automates, c'est-à-dire des espèces de boîtes noires, comme un programme d'ordinateur ou d'autres, tel qu'il y a des entrées, des données d'entrée, qu'on injecte dans la boîte, qui fait un calcul sur ces données-là, qui donne des données de sortie. Et le problème, c'est qu'on réinjecte les données de sortie en données d'entrée pour avoir un comportement dans le temps. Je prends un exemple. Vous lancez une fusée, vous mettez dans votre outil d'automate programmable d'ordinateur, vous mettez la position, etc., la vitesse initiale, vous faites un calcul pendant un pas de temps qui vous donne la position de la fusée, sa nouvelle vitesse, etc., un petit pas de temps plus tard, vous réinjectez ces données à l'entrée pour ensuite calculer à nouveau la nouvelle position en pas de temps. Donc on voit que beaucoup de systèmes dynamiques et beaucoup de systèmes dont on étudiera le comportement sont gérés par des automates, c'est-à-dire des systèmes avec des données d'entrée, un traitement dans une boîte noire et des données de sortie qui rebouclent sur la sortie. Et on verra que c'est ce style d'automate, et qui est en fait un des premiers calculs sur ordinateur des équations de la météo, qui sera à l'origine de la grande découverte de ce qu'on appelle des systèmes chaotiques, que l'on verra lors de notre prochain podcast.